Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Bonjour Lucien Coq. Voilà, tu me reçois dans Binet, là, dans le quartier latin. Voilà, je te remercie de me recevoir. Alors, simplement, je voudrais que tu me dises deux mots de qui tu es, tout simplement. Puis après, j'ai lu attentivement, j'ai des questions à te poser par rapport au dernier livre que tu as écrit, Les coulisses du divan, la confidence d'un psy. Les coulisses du divan, c'était déjà un titre assez intéressant. Voilà, que tu viens de publier avec l'aide de Liliane Mittelmann, Laurent Dubost et Paul Besson. Mais d'abord, dis-nous un mot sur qui es-tu, ce qui est compliqué quand on est très atypique. Je t'écoute.
Oui. Alors d'abord, je suis un enfant caché. Caché, non pas, et pas révélé aux autres ni à l'humanité courante. Donc, qui a développé sa conscience dans une zone de combat du Vercors, dans un petit village qui s'appelle Cours, après avoir essuyé une période mémorielle qui s'est ancrée dans mon corps avec des symptômes très violents, de la fuite vers Pau en zone libre alors que les choses se refermaient avec les rafles, et dans ce voyage, ce périple, ma mère me portait à bout de bras. Bon, j'étais un enfant, donc c'était dans la région des 41, 42, 42. Et donc, je suis né en 38, et donc déjà, il fallait porter cet enfant, après avoir traversé qu'un passeur qui était dans la résistance, avec une troupe de gens qui étaient apeurés d'avoir un enfant qui fasse du bruit, et une meute de chiens, avec donc des poursuivants derrière nous. Donc, arrivé à Pau, l'enfant n'avait rien dit, mais les gens voulaient nous débarquer. Et ma mère héroïque, comme elle a été aussi dans la résistance, a eu ces paroles qui sont restées gravées et qu'elle m'a répétées plus tard. Vous n'avez pas honte, le petit est plus courageux que vous. Voilà. Sauf que quand je suis arrivé à Pau, le petit il avait perdu l'usage de la marche. Bon, il a fallu que le rééduquer, qu'il se rééduque. Donc ça, c'est pour les débuts de la vie. Et ensuite, plus tard, tout l'épisode que je raconte dans mes mémoires d'enfant caché, que j'ai extrait après un très long travail qui a duré plusieurs années, une sorte d'hypnose d'enquête intérieure, en laissant émerger petit à petit les souvenirs d'une violence intense et tellement immense que par moments, je pensais que je ne pourrais pas survivre à ces émotions. Donc l'enfant était là, il vivait et battait en moi, et il a continué à battre même après ce qu'on a appelé la libération. Et donc voilà, cet enfant-là, c'est lui qui a écrit ses mémoires en enquêtant aussi auprès des aînés survivants, qui ne se souvenaient pas de grand-chose, mais qui pouvaient confirmer. Et c'est surtout la famille des Justes, qui était pour moi le début de la naissance parmi les humains, auprès de qui j'ai pu me rendre, les remercier, y retourner, et dont la principale des trois filles de Madame Martin, qui s'est occupée de moi comme si c'était une jeune mère adoptive, et donc qui m'a confirmé toute une série de souvenirs, j'ai enregistré, et j'ai pu ramener tous ces documents de sa personne, en ayant déjà l'intention de témoigner, de raconter, de transmettre, parce que je trouvais que c'était une aventure d'enfant un peu particulière,
pour moi,
que ça pouvait servir à d'autres humains. Et puis aussi, je voulais remercier ces personnes, ces femmes de Juste. Je voulais aussi, en quelque sorte, remercier les maquisards que j'avais connus dans la région, que j'admirais tellement, voilà. Et c'est à tous ces gens-là qui je pensais, parce que c'était eux ma naissance, c'était eux mon pays. Mmh. Bon. Moi, enfant juif, pas juif, je ne connaissais rien du tout à ça, ça ne m'intéressait pas. Et donc, je n'avais pas mon nom de maintenant, je ne connaissais pas mon nom de maintenant, je n'avais pas le droit de parler aux autres enfants, je n'ai pas eu le droit d'aller à l'école. J'ai appris à lire et écrire. On m'a dit que c'était très nécessaire sans m'expliquer vraiment pourquoi. dans une cour de ferme avec des animaux. Et ma mère qui me donnait des cours le temps qu'elle était là, qu'elle ne s'occupait pas de la résistance ou qu'elle ne travaillait pas pour ramener aussi de l'argent en plus, était d'une sévérité absolument sans ménagement concernant la moindre faute d'orthographe. Donc je raconte ça dans mes mémoires, car mémoriellement, j'ai eu le droit à une gifle qui m'a révolté contre l'humanité, parce que j'avais mal écrit en script la lettre F, avec ses boucles, etc. J'ai fait tout un épisode mémoriel là-dessus. En tout cas, sans aucun doute que ma mère était une féministe acharnée avant l'heure. Voilà. Militante et dans la résistance, c'est une dure de dure, hein, parce que bon, après...
Alors justement, quand tu évoques la parole, tes difficultés de la parole, et tu as fini par devenir psychiatre et psychanalyste. Je fais un petit lien.
Oui, alors non. Alors je suis devenu psychiatre et psychanalyste par défaut, et par défaut de force, de courage, d'émotion, pour m'arracher ici au pays et à ma famille. Mmh. Car moi, la seule chose qui m'intéressait, malgré mes retards et tout ce que j'ai dû rattraper, plus un moment d'épisode de 3 ans à nouveau où j'étais hors circuit scolaire, d'une part c'était la musique, pour laquelle on avait vu que j'avais une sorte de don particulier, dans une famille maternelle où on aimait la musique, enfin ma mère, mais on n'était pas musicien, c'était différent pour mon père, et puis aussi que bon, c'est les mathématiques, les sciences, la physique qui m'intéressaient. Donc quand j'étais au lycée, je m'intéressais mollement à l'histoire, à ces trucs-là, mais tout ce qui était sciences, physique, mathématiques, musique, c'était mon plaisir. Et je passais mon temps même à demander si je pouvais amener un livre à table, faire de mathématiques. Et aussi, je composais, dès que j'ai eu quelques leçons de musique, je composais les mélodies que j'entendais sur du papier de cahier, tout en allant au lycée, en revenant, etc. Il s'est trouvé que mes œuvres, d'ailleurs, se sont trouvées déchirées, jetées, parce que ma mère, une fois, a trouvé tout ça, a dit c'est quoi, etc. Elle a voulu faire le ménage, mais certaines sont restées dans la tête. Voilà, en gros, si tu veux déjà. Donc, quand j'ai fait la médecine, en fait, j'aurais voulu faire une grande école, des mathématiques, mais j'avais trop de retard pour suivre le rythme compétitif acharné des autres, qui étaient dans une meilleure santé, une meilleure forme que moi. Donc, j'ai dérivé petit à petit vers la médecine et je suis rentré donc en médecine. Et là, j'ai eu le choc de ce qui se passait dans les hôpitaux à l'époque. Les chefs de service, certains d'une très grande indélicatesse avec les malades. Je raconterai peut-être ça plus tard, mais c'était d'une période terrible. Et donc, j'ai vu des gens qui m'ont fait honte à l'époque même où j'étais externe, en pneumologie, un type que j'ai détesté. Et qui maltraitait à l'époque des patients qui venaient des mines du Nord et qui étaient en silicose et en asphyxie. Et là, j'ai assisté à des scènes d'une violence où je me croyais dans les zones de combat du Vercors. J'ai vu des hommes avec qui je parlais, parce que je parlais, discutais avec eux, débrancher brutalement et laisser mourir en asphyxie, notamment par l'infirmière en chef qui, dans le service, était une religieuse. Alors là, c'était un choc. Moi qui avais découvert la musique en église, en latin, et avec ma chère Michaud et en accompagnement, émerveillé par ce qui se passait là-bas, je ne comprenais pas que des gens se revendiquent à ce point de cette religion et des belles beautés pour commettre des actions de ce genre. Bon voilà, donc j'ai eu un choc énorme. Ouais. Et j'avais une révolte, notamment, je ne le raconte pas, mais je peux te raconter à toi, c'est que ce chef de service, une fois, est arrivé avec sa cape, avec tout son entourage, et s'est mis à brutaliser parce que je ne donnerais pas assez vite l'antibiogramme au lit de ce patient psychotique avec qui je parlais de sa vie. Et là, je n'ai pas pu me retenir. Le gamin de la résistance lui a dit, mais vous ne voyez pas que monsieur est en train d'asphyxier et d'aller pas bien, je vais vous le donner, votre antibiogramme. Il n'avait jamais entendu un truc pareil, ça a déclenché un orage. Et il m'a ordonné de quitter la pièce, etc. Et moi, je suis parti. Et l'assistant du service, qui était un type admirable, comme tout, qui faisait tout pour ce saint-part, là, lui, eh ben, il m'a couru après. Il dit, tu sais pas, il était le même machin, on va t'excuser parce qu'il peut briser ta carrière.
Tu le racontes dans ton livre, là, ça. Voilà.
Et moi, j'ai répondu, ma carrière, monsieur, etc. Je suis allé, pour lui, je suis allé m'excuser. Ouais. Mais bon, alors ça, c'était mal la médecine. Et il s'est avéré qu'en troisième année, on parlait, donc évidemment, c'était la biochimie qui m'intéressait. Et je me disais, modéliser ça, commencer à parler des cellules. On m'avait ramené un bouquin des États-Unis, je ne sais plus qui, mais du prix Nobel Linus Pauling, qui était tellement bien fait avec des photos et tout. On parlait d'Einstein, de tous les phénomènes électroniques, d'ionisation et tout. Moi, pour moi, j'étais en transe d'intérêt. Et donc, ce qui se faisait en médecine, j'apprenais un peu mollement. Et là, bon, il s'est avéré que celui qui était le sous-professeur en chaire à la faculté de médecine était un biochimiste qui s'appelait Shapira, qui était un petit cousin éloigné du côté de la famille de ma mère. Donc, en discutant, je dis, bon, ben, tu peux peut-être aller le voir pour qu'il te conseille. Je suis allé le voir, et là, il s'est mis à me tutoyer, comme familièrement, donc c'est très gentil. C'est pas le cas de tous les professeurs, bon. Et il me dit, écoute, bon, puisque c'est comme ça, t'abandonnes la médecine tout de suite, ça sert à rien, ici tu vas perdre ton temps. Tu candidates pour partir au Canada ou aux États-Unis. Voilà, ça m'a fait un choc parce que j'avais déjà tellement rattrapé deux choses et deux choses, plus ma famille qui était là, sinistrée, mon frère qui commençait à déconner des rallyes durs. Hein. Je me suis dit, bon, je candidate quand même à McGill. Et là, j'ai été tout de suite accepté.
D'accord.
Sauf que je n'ai pas réussi à m'extraire de la corticalité mémorielle et qui me soudait à mes parents et à mon frère, qui commençait à dérailler en pré-ado-adolescence et qui portait le prénom. Pour ma mère, c'était la réincarnation de son père adoré déporté à Auschwitz. Voilà ce qu'à peu près cette histoire. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu assez brièvement. Si c'est trop long, tu me le dis.
Non, très bien, c'est très bien. C'est intéressant de voir que... Oui, enfin bon. En tout cas, donc on peut aller un petit peu sur... Moi, je vais te poser... En fait, j'ai lu ton livre, là.
Oui. Alors, je précise que le livre...
Vas-y.
A été composé à l'initiative de Liliane Mittelmann, donc psychiatre,
oui.
Très grande qualité, qui m'a suivi dans toutes mes inventions, de Laurent Dubost, que j'ai fait travailler sur lui, mais après, c'est un ingénieur centralien chez Thomson Thales. J'ai réussi, moi, à être pendant 3 ans envoyé à Centrale pour. Superviser les troisième année en fin de stage sur le plan psychologique, et puis aussi d'un autre, donc Paul Besson, qui est un mathématicien trader de niveau international, et aussi que le fait de travailler sur lui, son mental, sa vie, sa réalité, ses œuvres, et qui continue même maintenant.
C'est ça qui est très original, c'est-à-dire qu'en fait, l'un, alors donc une collègue que je connais un petit peu, qui est quelqu'un de formidable, Liliane Mittelmann. Bon, on comprendrait qu'il y a un livre un petit peu, un collègue avec qui tu écris ce livre, mais surtout deux patients, et qui, ça c'est quand même assez original. Alors, avant d'aller plus loin, quand même, il faut dire que tu es quand même un atypique au sens de la psychanalyse, tu t'es affranchi, parce que sous l'hégémonie psychanalytique de l'époque, c'était pas simple, et en fait, tu as toujours, ce que je comprends, revendiquer une certaine, j'ai dit, authenticité d'esprit et de réflexion, et tu es un peu un résistant, quoi. En tout cas, s'il y a des choses qui te dérangent, Voilà, que tu ne te laisses pas faire, quoi. Tu essayes de trouver des façons pour réfléchir autrement. Et c'est un petit peu pour ça, comme ça, que tu es arrivé à l'hypnose, d'ailleurs.
Ben, c'est-à-dire que si je ne peux pas combattre de front,
ouais,
j'essaye de combattre en clandestinité ou par les arrières.
Ouais.
Bon. Et je suis arrivé à l'hypnose comme ça, effectivement,
ouais,
et je me suis aperçu que la psychanalyse visait l'establishment et la prise du pouvoir. Et je me méfiais, je me suis très très vite méfié de toutes les ambitions intellectuelles, y compris sous couvert de sentiments intellectualistes de gauche théorique et autres. Oui. Tout ça, je reniflais que vraiment ça sentait, oui, quelque chose de pas très sain.
Ouais, ça, et, je suis assez d'accord avec, voilà, toi. J'ai ressenti ça moi aussi.
Voilà. Et donc, oui, je suis parti dans le parallèle. D'autant que j'ai expérimenté ce qui se passait en création des centres médicaux psychopédagogiques, les hôpitaux de jour, que j'y ai travaillé, que on accueillait les psychiatres et les psychanalystes hommes comme une manne rare et précieuse, etc. Et que j'étais tellement stupéfait de la manière dont ils appliquaient leur grille institutionnelle.
Voilà.
Que je n'ai pas pu supporter et je suis rentré aussi dans une pratique clandestine avec les enfants en internat en hospitalisation. Et là, ça a valu en quelque sorte la thèse que j'ai fait dessus de l'institution, avec un langage sans doute un peu trop contourné, trop lacano, machin, linguistico, je ne sais pas quoi, mais je l'ai fait, ça a été soutenu par Lacan lui-même, refusé avec suspicion, cependant par Masson, alors qu'il y avait un éditeur qui était psychanalysé vers lui, par lui, parce que déjà on voulait trouver quelque chose qui était moins connu, il fallait varier, il y avait trop de Lacan, machin. Par contre, Doldo, elle a fait la préface.
Que tu as beaucoup côtoyé.
Alors, de Doldo, je veux dire que c'était comme une grande copine aînée adoptive. J'ai jamais été adopté aussi fort que ça, en dehors de l'enfant de la résistance par les justes. Et là, avec Doldo, ça a été une sorte de honeymoon, je veux dire, dans ses séminaires de recherche, dans ses travaux. Dans son séminaire public pour psychanalystes assurés, où on avait des enfants dits psychotiques, ou des adolescents, etc. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble, à se partager. Alors, il y avait aussi un séminaire fermé où moi, j'arrêtais pas de prendre des notes, j'écrivais, j'ai plein de notes sur ce qu'elle disait, où je l'argumentais. Ça l'énervait des fois parce que j'arrêtais pas de poser des questions, de faire des hypothèses. Mais bon, elle me ramenait des fois ici au cabinet, en voiture, et elle me tendait un bout de saucisson qu'elle avait dans son truc. On était complètement potes. J'ai été invité dans sa maison de campagne aussi, et puis j'ai connu son mari, qui est un des grands créateurs donc, de la kiné en France. Voilà. Et donc j'avais toute cette ambiance, et puis avec Doldo, il y avait du physique, il y avait du corps, il y avait de la réalité.
Oui, tout à fait. Voilà.
Et je me souviens de ces encouragements quand j'intervenais dans le séminaire avec un enfant qui tournait en rond, comme ça, qui venait nicher vers elle, qui reniflait et tout. Et je commençais à l'interpeller, à lui donner des hypothèses et tout. Et je voyais de Françoise qui m'encourageait, comme si on était un match de boxe, un match de cabane. Vas-y, chien, encore, mais allez, continue, c'est très bien. Là, c'était autre chose. Que je joue le pouvoir, l'analyse de la psychologie de la société du tout, du haut, de mes grandeurs, etc., etc. Donc voilà, à peu près, ça, c'est une rencontre avec Doldo, qui a été effectivement merveilleuse.
Pour faire un petit lien avec ton livre, ce que j'ai trouvé d'intéressant, enfin, ton livre est très intéressant, mais vis-à-vis de l'hypnose, il y a quelque chose que tu dis à deux reprises, à deux endroits différents. Pour faire un lien avec ce que tu viens de dire, tu parles de la poétique de la réalité, la poétique de l'autre. Alors ça, c'est intéressant. Un terme poétique, c'est quand même rarement utilisé. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce que c'est ?
Alors la poétique, pour moi, c'est l'incroyable de l'incroyable de l'incroyable. C'est la dimension de l'incroyable dans la dimension du vrai, coup, on le rencontre et on se heurte avec. Et moi, pour moi, l'incroyable existait déjà quand j'étais un enfant dans le Vercors. Parce qu'un enfant qui va passer des heures tout seul à garder des chèvres dans la bois et qu'on laisse seul et qui commence à parler avec les animaux, avec la nature autour, qui a cette histoire-là, c'est pas un enfant scolaire. Non. Apprendre à lire, à écrire dans une cour de ferme avec des animaux qui passent autour, c'est pas trop scolaire.
Non.
Bon. Donc la réalité, elle a cette poétique-là.
D'accord.
L'enfant qui découvre avec émerveillement la voix, les sons, la musique de l'orgue, en latin, et des trucs après qui lui restent comme des cantates de Bach de je ne sais pas quoi, qu'une sorte d'émerveillement, c'est plus que du surnaturel. Voilà. Bon. Et voilà, donc c'est ça qui est l'imaginaire de l'imaginaire dans une dimension N plus réalité. Pour moi, c'est ça. Donc, ça a donné des exemples en psychiatrie quand j'étais interne dans un hôpital, donc en psychiatrie. Et là, je ne fonctionnais pas comme les autres. Bon. Et notamment, donc il y a des choses, je ne sais pas si je raconte dans les livres, je ne me rappelle plus. On nous amène en hospitalisation un brave type qui est policier, délirant, machin. Et bon, alors les anamnèses, tous ces trucs-là, ça fait des dossiers. On essaie de valider avant que le chef de service passe pour donner quel type de traitement, machin, etc. Pour moi, l'anamnèse, c'était plutôt du questionnaire. Vous êtes qui? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici, etc. Ça vous est arrivé comment? À vous délirer? Oui, bon, ben, c'est, oui, ça arrive, bon, etc. Et voilà que je commence à questionner ce bonhomme. Et que petit à petit, il commence à se calmer tout en étant manifestement un peu excité et délirant. Et puis, il me lâche un truc qui était pour moi une pépite d'or. C'était aussi l'incroyable de l'incroyable dans les faits divers de la vie quotidienne, dont la plupart des gens, des psychiatres, des médecins, ça n'avait rien à faire. Il m'a dit, oui, voilà, j'ai arrêté une personne qui voulait pas suivre le règlement, un feu, etc., un carrefour, et puis il s'est trouvé que c'était la fille du président Auriol. Et là, vous comprenez, elle s'est fâchée très fort, et elle m'a dit, vous savez pas qui je suis, etc. Et alors, figurez-vous, j'ai répondu, moi, non, ça m'est égal. Qui vous êtes, vous n'avez pas respecté le règlement. Ça m'a fait rappeler des trucs, tout
ouais, bon, oui, c'est, oui, c'est.
Alors, j'ai dit oui, et donc, et ben voilà, et ben écoutez, après, je me suis fait réprimander par mes supérieurs fortement, et puis d'un seul coup, j'ai été très mal. J'ai dit, oh là là, bon, ça c'était formidable. Mm-hmm. Et là, c'était ces relations qu'il y avait avec ce genre de gens. Pour moi, c'était des humains. Alors, tu sais, les diagnostics, psychose hallucinatoire, machin, truc, muche. Bon, ça, ouais. Bon, la tartine, ouais. J'ai appris à beurrer la tartine. Bon, à mettre quelque chose à passer. Mais après, voilà, une autre fois, il continue à délirer, il ne me reconnaît plus. Alors là, j'ai une inspiration toujours dans la poétique. C'est comme au théâtre et comme imaginatif du cinéma, l'inspiration qui me vient. Je lui dis, comment ça le type? Tu ne me reconnais pas? Et je me mets à l'insulter comme mon père qui parlait des fois en russe, c'était très direct. Et lui, salopard! Bon, alors ça ébranlait toute la bienséance autour. Et je le mets à l'engueuler, etc. Et tu ne sais pas qui je suis, je t'ai bien reçu. Tu veux voir ma carte d'identité? Je lui sors ma carte d'identité, je la jette par terre. Et le type, il s'est calmé. Bon, voilà, je te donne un exemple.
Ouais, ouais.
On peut peut-être appeler ça clinique, mais enfin bon, à mon avis, ça mérite un petit peu mieux.
Non, c'est bien. Non, non, très bien, très bien. Donc, oui, voilà, ce qui est intéressant, c'est de, finalement, de, ça, oui, de sortir un peu du cadre, en tout cas, d'accueillir ce qui est hors cadre. Voilà, c'est plutôt ça. L'incroyable de l'incroyable.
Oui, c'est ça. Je dirais que la psychose hallucinatoire, c'est très proche de la réalité.
Ouais, ouais. Alors après, par rapport à l'hypnose, tu dis aussi des choses très intéressantes. Moi, qui m'a interpellé, parce que moi j'ai beaucoup utilisé ça dans mon activité aussi. Tu parles de l'inspecteur Colombo. C'est-à-dire que tu, en fait, tu, tu dis l'hypnose pour l'utiliser, ben oui, enfin, il faut en parler sans en parler, quoi. C'est un peu, c'est comme Colombo, quoi. C'est, on ne sait pas, on va voir, enfin, un peu, voilà. Mais l'important, c'est d'y faire allusion. Et surtout, ce que tu dis, qui me semble absolument essentiel, c'est que tu, il faut voir si tu essaies d'avancer, pas d'avancer, de, voilà, de, j'allais dire, de saupoudrer éventuellement si ça peut l'intéresser, et puis d'attendre qu'il avance. Je n'étais pas en train de proposer quelque chose. Tu es en train de faire allusion à, et c'est le patient qui saisit ou qui ne saisit pas, et peut-être pas tout de suite, enfin voilà. C'est ça, hein, le...
C'est-à-dire que j'essaye d'identifier qui il est.
Voilà.
Et donc, son mal-être, ses problèmes, y compris de santé diverse, je considère que c'est une coque de maille, une superficie, et qu'il faut rentrer en contact avec quelqu'un qui est dedans. Donc, c'est comme un sondage d'identité pour apprendre à contacter, communiquer avec un étranger total dont on ne comprend pas la langue.
Oui.
Y compris sous prétexte qu'on parlerait soi-disant la même langue.
Ouais.
Donc, j'envoie des sondes. Un petit ami comme bonjour, comment ça va? J'attends un retour. Bon, si je n'ai pas un retour, je continue. Bon, peut-être que vous n'allez pas aussi bien qu'il apparaît. J'attends un retour. Un petit ami, j'envoie mes âmes sont sondes. Ouais. Et c'est comme ça que petit ami, il y a une communication qui s'instaure. Qui est une communication extra-communication, univers courant, univers officiel. Bon. Donc, la position essentielle, puisqu'on parlait toujours de la position basse, etc., c'est pas seulement d'avoir la position basse, mais de la pratiquer avec application comme quelqu'un qui est un peu comme par en dessous, en underground de la société officielle. Il est ce qu'il est, mais il est au-dessous, il est sans être ce qu'il est, il n'est pas tout à fait ce qu'il est comme il est. Donc voilà à peu près le personnage de Colombo.
Ouais.
Voilà.
Ouais, le temps de rencontrer en relation avec les gens, et dès en Colombo, dans l'inspecteur Colombo, il arrive à déchiffrer ses énigmes, c'est plus efficace que de poser des questions.
Les gens souvent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en posant des questions qu'on met l'énigme en résolution.
Voilà, exactement. Voilà.
Donc, c'est une manière stratégique aussi de considérer le symptôme comme l'affaire de la personne, mais qu'elle n'est pas en état ni de comprendre ni de déchiffrer pleinement. C'est son petit continent. Ouais. Donc, ouais. C'est à partir de là, il m'a compris ce qu'elle a entendu d'officiel, qu'on lui a dit, que c'est la catastrophe, comme ça. Je prends ça comme du très sérieux, mais j'essaye de passer par au-dessous pour l'entourer et pour se mettre à communiquer avec la personne qui a derrière.
Oui, parce que souvent, ils apportent ce qu'on leur a déjà dit, un diagnostic, là, ils ont plein d'informations tout à fait rationnelles, mais qui sont au fond un peu écran. Parce que,
des informations plus que rationnelles, des informations passionnelles, complicationnelles,
voilà,
etc.,
voilà.
Y compris de qui ils sont, qui étaient leurs parents, comment étaient leurs parents, etc., qu'on ne peut pas seulement mettre à plat comme une sorte de questionnaire biographique.
Et alors tu dis aussi, tu décris, j'ai beaucoup aimé quand tu dis que l'hypnose est mémorielle, et tu proposes même, c'est page 105, hein, et page 106 tu dis qu'il faut proposer finalement, l'hypnose c'est une façon de proposer un atterrissage, enfin tu dis pas que ça, mais ce que j'ai beaucoup aimé cette expression, c'est un atterrissage de soi chez soi. Voilà, ça c'est très très intéressant quand même. C'est cette position d'hypnose qui est vraiment quelque chose, c'est le patient qui atterrit chez lui. Là, c'est pas quelque chose.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Moi je dirais que l'hypnose est mémorielle parce que elle est hypnotisante au sens de l'amnésie générale du fonctionnement mental. C'est-à-dire que ce que Freud appelait donc, amnésie machin refoulement. Il y a une stratégie du vivant qui est beaucoup plus grande que ce qu'il a pu décrire, et telle qu'il y a un vécu avec les traumatismes, l'anxiété, l'inquiétude, qui est une machine à vivre. La mémoire est donc une hyper-mémoire, puisque l'amnésie fait partie des, je dirais, des défenses du territoire.
Oui, voilà. Tout à fait d'accord.
Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est comme tu ne te souviens pas de ne pas te souvenir. Mmh. Voilà. Et donc je pense par exemple à la musique, aux chansons de Barbara, voilà, une rythmique de ce genre, c'est-à-dire, ou alors à Marguerite Duras. Voilà. Mmh. Bon, j'ai beaucoup aimé Marguerite Duras, et notamment, tu ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Voilà, donc, à Hiroshima, je sais, mais quand même, on sait tout ce fond intense, avec une sublimation extraordinaire de lucidité transtomatique, pour moi, qui fait partie aussi de la poétique, même dramatique, de la réalité.
Oui, la mémoire étant quelque chose... en tout cas, c'est quelque chose qui était très important chez toi, pour toi, et qui, effectivement, était chez nous tous, et donc, notamment lorsqu'on se rencontre. Voilà. Et qu'il faut quand même... pour cela, il faut du temps. C'est pour ça qu'il faut... Enfin, je veux dire, il ne suffit pas de décider, de retrouver.
Il faut aussi se rendre compte que la mémoire est transgénérationnelle et traumatique. Parce que quand on raconte à des personnes, là tu me comprends, qu'il y a eu des résistants formidables, etc., dans une époque, dans une famille, et comme j'essaye moi de témoigner, etc., et pour tous les justes que j'ai fait mon podcast qui va sortir, ça nourrit, ça infiltre la génération des successeurs de ça. Pour eux, c'est d'une importance formidable, ils sont d'une fierté, ils s'ancrent là-dedans. Mais ça pourrait ne pas savoir. Mais quand d'autres, parce que là aussi, j'ai pensé aux jeunes Allemands quand je suis parti en Allemagne. Je ne voulais pas avoir la position que des proches avaient de condamner indistinctement. Ils disaient non, les jeunes qui naissent avec ça, c'est terrible pour eux. Et d'aller vers eux, et de voir comment j'étais reçu, et de parler, et qui tendent la main, et qui sont dans un tel état certain de transmission dramatique et de repentance comme impossible, moi aussi ça a été très important pour moi ce truc-là. Donc c'est pour ça, tu vois, que révéler, parler de l'histoire dans une transmission, c'est révéler beaucoup de choses qui appartiennent aussi à d'autres. Pas seulement le traumatisme héroïque, mais le traumatisme de ceux qui subissent le type d'ascendant qu'ils ont eu. Voilà.
Tout à fait.
Donc je pense aussi aux ascendants que j'appellerai criminogènes.
Oui, tout à fait. Bon, écoute, voilà. En tout cas, moi, je trouve ça très... je conseille vivement de lire ce livre.
Merci beaucoup à toi.
Non, c'est vrai, c'est très intéressant parce qu'on sent que d'ailleurs... c'est un dialogue, en fait. C'est un dialogue avec différents... Donc, on l'a dit, avec trois autres personnes.
Ils m'ont questionné pendant 3 ans, en m'invitant dans les lieux, et en me posant des questions non préparées par moi, et en enregistrant. Et c'est après plus de 2 ans de travail, entre eux, qu'ils ont écrit ça a mis plus de 5 ans.
Bon, alors l'hypnose, là, dans ta pratique aujourd'hui, tu utilises, tu fais allusion éventuellement à ça, mais si tu le sens, tout simplement, c'est pas du tout systématique.
Pour moi, l'hypnose, elle existe tout le temps, puisque la réalité est, je dirais, une forme d'hypnose de réalité, telle que la réalité n'est pas directement connue ou ne se connaît pas directement. Donc, c'est pour ça aussi que je conçois une continuité dans le traitement et dans le suivi des personnes qui est de l'ordre du fréquentatif, de la fréquence et de la fréquentation. Donc petit à petit, tu t'habitues à eux, à leur visage, à leur posture de corps, à leur manière d'être sensible, à leur vibrance intérieure, etc., à leur voix, à leur maniement du son. Et petit à petit, eux, ils sentent que tu opères comme ça. Et là, ça a un effet qui est un effet de tunnel, de tunnel. Bon, donc c'est déjà cette pratique. Et après, je parle de l'hypnose quand il y a des troubles qui fonctionnent plus grandement comme des troubles perturbateurs, je dirais pas endocriniens, mais perturbateurs des conditions de vécu du quotidien.
D'accord. Alors,
troubles du sommeil, troubles d'anxiété, des crises d'angoisse faramineuses, les addictions à des types de médicaments directs, la grande difficulté de s'attaquer aux imprégnations, aux addictions de neuroleptiques, dans la mesure où on n'est pas suffisamment secondé par un collègue, on est trop tout seul comme un franc-tireur fou. Et j'ai réussi quand même aussi là-dedans quelque chose dont je suis très très content, c'est le changement de neuroleptique d'un patient diagnostiqué bipolaire, puisque le diagnostic coule à flot.
Voilà. Ça, enfin, voilà. Il y a beaucoup de bipolaires.
réussir à le faire du cachet magique, là, c'était un travail à deux, où il fallait une véritable entente corticale.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est à peu près pour te répondre sur les différents maniements, où là, l'hypnose est une manière implicite, comme du tact à distance, de prendre des problèmes.
D'accord. Alors, on pourrait conclure là-dessus. C'est très bien, parce que tu parles du tact. Voilà. Merci beaucoup, Lucien. Et je conseille, encore une fois, de lire ce livre très accessible et très riche et plein d'humanité. Merci, Lucien.